Peter.
Donc on est dans 1 Pierre.
We have been studying.
Donc on a été en train de travailler le livre de 1 Pierre ensemble. Donc c'est un livre vraiment génial, absolument génial. Juste pour vous donner un petit peu de contexte si vous n'avez pas été avec nous dernièrement. La semaine dernière, on a regardé un passage sur la fin du chapitre 1 de 1 Pierre qui parlait sur le fait que maintenant que vous avez renaît et que vous avez une relation juste avec Dieu, l'une des choses qui se passe à cause de ça, c'est que vous devriez avoir un amour sincère pour les autres croyants. Et Pierre nous dit, maintenant que vous avez cet amour les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres sincèrement. Et la comparaison qu'on fait, c'est comment est-ce que vous pensez à l'Église? Est-ce que l'Église est comme un restaurant? Vous aimez le restaurant, alors vous y allez fréquemment, mais ton niveau d'engagement est bas? Ou est-ce que c'est plutôt comme une famille, quand il y aura des bons moments, des mauvais moments, mais vous êtes engagé à cette relation? Pierre nous dit, si vous avez cet amour fraternel que des chrétiens en bonne santé ont, alors plongez à fond dans cette relation et aimez sincèrement. Et maintenant, on va parler de ce que Dieu veut faire à l'intérieur et à travers nous, pour nous et pour l'Église. Et c'est beau. C'est merveilleusement beau. Et c'est quelque chose qui peut changer le monde. Mais il a besoin de s'occuper d'un certain nombre de choses avant ça. En même temps que je pensais de cette semaine, je me suis mis à penser à Jésus. Et des fois, vous ratez la chose la plus simple. Jésus est venu pour mourir pour les péchés du monde. Mais il est aussi venu pour apprendre aux gens les manières du royaume de Dieu. Comment est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il y avait plein de manières différentes pour lesquelles il aurait pu faire ça. On sait qu'il a appelé 12 disciples, 12 élèves, pour enseigner. Il aurait pu dire, ceci va être un enseignement, entraînement intense, alors je vais créer une relation de mentor avec chacun de ses élèves. Donc il y a 6 jours dans la semaine, donc voilà ce que je vais faire, un planning, et lundi matin, ce sera pour Pierre, on devrait mieux commencer avec Pierre. Et ensuite, je vais passer lundi après-midi avec Fatius, mardi matin avec Jean, mardi après-midi avec Matthieu, et puis on continuera comme ça avec un planning pour la semaine. On travaille 6 jours par semaine, donc je passerai une matinée ou un après-midi avec chacun d'entre eux de manière individuelle dans cet entraînement intense. Et le soir, plusieurs fois par semaine, on fera des grands regroupements, où on soignera les gens, on les guérira, et on aura des grands moments avec une grosse foule pour avoir le message en dehors. Il aurait pu faire ça. Un à un. Donc sur cet enseignement individuel. Mais il n'a pas fait. Il a appelé ces 12 personnes ensemble pour être avec lui. Pour être avec lui ensemble. Certains d'entre eux étaient sur politiquement plutôt du côté limite extrême droite, d'autres plutôt du côté extrême gauche. Certains étaient très très éduqués, d'autres pas du tout. Par exemple, vous aviez Simon qui était le zélé qui du coup voulait conquérir Rome, et puis il y avait le collecteur de taxes qui travaillait pour Rome. Et Jésus a dit, non, non, on va passer chaque jour ensemble, toute la journée. Et vous saurez qui ronfle, qui ne ronfle pas. Vous saurez qui aime bien mettre beaucoup de sauce piquante sur leur repas et ceux qui ne l'aiment pas. Et vous allez vous aimer les uns les autres. Vous allez vous aimer les uns les autres. Et si vous lisez l'Évangile, vous découvrirez que les disciples, des fois, avaient des temps très difficiles de s'aimer les uns les autres. Parce que la réalité est que l'amour que Dieu nous appelle à avoir ne peut que être acquise et découverte et apprise dans une relation avec les autres. Donc ça ne peut que être appris ensemble. Et quand on est ensemble, voilà, on se entrechoque les uns les autres. Et dans ce procédé, on apprend à aimer. Alors Pierre, en écrivant cette lettre, dit, ok, vous avez rencontré Jésus, vous avez été racheté, vous avez une vie nouvelle, vous êtes renaît. Et dans ce process, c'est que maintenant son amour est en train de vous traverser. Et maintenant, vous devez avoir un amour pour les autres croyants. Allez vers cet amour et Dieu va faire quelque chose d'incroyable si vous le faites. Mais au milieu de tout ça, il rajoute le chapitre 2 et les versets 1 à 3. Ah, la technologie, c'est pas forcément toujours mon truc. Alors voilà, donc voici le verset, les versets 1 à 3 de 1 Pierre chapitre 2. Débarrassez-vous de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà, donc il nous défie d'avoir de l'amour honnête les uns pour les autres, sincère. Et il dit, attention, vous feriez mieux de laisser de côté certaines choses. Et l'image qu'il utilise pour ça, voilà, quand on vivait aux États-Unis, dans le nord du Minnesota, l'une des choses qu'on aimait bien faire, c'est d'utiliser, d'aller faire du quad.
Quad.
C'est un quad.
A quad? You just call it a quad. Okay, that makes sense. And we lived in the woods out in the middle of
the. Voilà, et on habitait dans la forêt au milieu de nulle part. On savait qu'il y avait plein de chemins pour les bûcherons, et c'était vraiment très fun s'il avait plu précédemment, parce qu'il y avait de la boue partout. Et vous travailleriez pour que du coup, votre quad, du coup, les roues prendraient plein de boue qui se splashent un peu partout et que ça arrive sur la personne qui est derrière vous. Et vous seriez soit complètement poussiéreux si c'était sec ou complètement boueux si jamais c'était humide et mouillé. Voilà, et dès qu'on rentrait, Janet dirait, enlevez vos habits, je veux pas ça dans la maison. Ouais, c'est le verbe qu'il utilise ici. Enlevez vos habits sales, enlevez ces choses. Attendez une minute, ces choses peuvent se passer dans la vie d'un chrétien? Oui. En tant que vous commencez à aimer les uns les autres, si vous essayez d'aller dans cette relation, ces choses sont soit exposées, ou ce qui se passe, c'est que vous arrivez foncé dans quelqu'un et il y a une marque, une blessure qui reste. Du coup, boum, vous entrechoquez contre quelqu'un et au fur et à mesure, cette blessure grandit et commence à vous affecter dans l'ensemble Et ça se manifeste à travers ces choses-là. Et Pierre dit, attention, faites bien attention. Quand on était des disciples avec Jésus, on a passé 3 ans ensemble. Voilà, on est passé à travers un certain nombre de choses. On devait s'occuper d'un certain nombre de choses en nous-mêmes. Et si on veut devenir ce que le Seigneur veut que nous devenions, on a besoin d'être continuellement en train de mettre de côté ces choses-là. Voilà, donc on doit mettre de côté la méchanceté. C'est quoi la méchanceté? La malice. C'est le désir de blesser quelqu'un ou de voir quelque chose de mal se passer sur cette personne. Waouh, ça peut se passer? L'église est censée être un endroit d'amour. Et pourtant, la méchanceté et la malice peuvent se développer. Oui, tout à fait. Ça m'est arrivé à moi. Et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Est-ce que vous n'êtes jamais arrivé dans une relation avec un autre croyant? Peut-être que vous vous serviez ensemble au même ministère, vous étiez dans un groupe de maison, et ils ont fait ou dit des choses, ou ils ont une attitude qui juste vous embête. Et vous vous dites vous-même à l'intérieur, tu sais quoi? Disons de ces contrats d'un an seulement au travail. Ça serait super si, ici même, ce contrat ne serait pas renouvelé et qu'ils ne pourraient pas trouver un boulot. Et ensuite, ils bougeraient à Paris et je n'aurais plus jamais besoin de les voir. Ça résoudrait le problème. J'étais en train de parler, c'était quand j'étais aux États-Unis, je parlais à quelqu'un qui allait dans une église et cette église avait quelqu'un qui juste embêtait et ennuyait tout le monde à l'église. Et du coup, je leur demandais, comment est-ce que vous gérez ça? Et ils disaient, non, je ne gère pas ça. Parce que voilà, ils sont obèses, parce qu'ils ont du coup un boulot très stressant, et du coup, ils sont sensibles pour avoir une attaque cardiaque facilement. Et donc, du coup, je priais pour qu'ils aient une attaque cardiaque et que ça arrive le plus tôt possible. Et moi, je leur ai répondu, moi, j'aimerais bien qu'ils rencontrent Jésus. Voilà, ça, c'est de la méchanceté qui se forme, la malice qui se forme dans nos cœurs. On commence à vouloir que des mauvaises choses se passent pour des gens. Et du coup, c'est un vrai combat spirituel. On peut aller et prier et dire à Dieu, écoute Seigneur, cette personne a une attitude très mauvaise. Il a dit des choses qui m'ont blessé. Et ça dit dans ta parole que tu disciplines les gens. Alors je veux que tu les disciplines vraiment fortement. Voilà, donne-leur une bonne fessée parce qu'ils en ont besoin. Là, la méchanceté peut vraiment commencer à venir dans notre cœur et elle est hideuse. C'est vraiment hideux. Donc, vous laissez de côté la méchanceté, toute ruse et l'hypocrisie. Donc, la ruse et l'hypocrisie. Voilà, donc les pharisiens étaient décrits en ces termes. Ils n'aimaient pas Jésus. Alors, ils devaient utiliser la ruse pour essayer de le piéger, pour qu'il échoue. Ils manipuleraient les situations de manière avec ruse, de manière déshonnête, et en disant des choses. Pas seulement ça, mais c'était des hypocrites. Ils prétendaient être justes alors qu'à l'intérieur, il y avait tellement de déchets. Ils agissaient plus saints que n'importe qui d'autre sur la terre. Mais vous ne pouvez pas aimer des gens avec cette attitude. Vous ne pouvez pas vraiment aimer les gens avec cette attitude. Vous ne pouvez pas continuer à marcher en disant « Je suis tellement plus saint que toi et je vais te le prouver. » Vous ne pouvez pas aimer les gens comme ça. Alors Jésus dit « Vous devez vous séparer de tout ça. Vous devez vraiment vous séparer de ces choses-là. Vous devez être réel. Vous devez être authentique. vous devez être qui vous êtes. Je suspectais que les disciples, quand ils ont commencé à suivre Jésus, la première semaine, ils ont probablement dû vouloir essayer de mettre un bon show pour bien se donner une bonne image aux autres par rapport aux autres disciples. On les voulait tous apparaître tout saints. Mais vous savez, après 3 mois de dormir à côté du Pierre qui ronfle, et vous êtes fatigué, c'est des fois difficile de supprimer cette hypocrisie qui continue. Et Pierre dit, on doit apprendre à être réel les uns avec les autres, pour être honnête les uns avec les autres. Pas d'essayer de manipuler des situations ou des gens. Parce que ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Alors, laissez de côté la malice, la méchanceté et l'hypocrisie. Laissez de côté l'envie. L'envie, c'est, et la jalousie, c'est vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre a. Voilà, vous espériez tellement que vous aviez ce qu'ils ont. Ça peut se présenter sous tellement de différentes formes. Et il y a un mot pour ça. Le péché. Le péché. Certains d'entre nous penseraient peut-être, tu sais, ça serait tellement plus simple si j'étais français. Tu sais, j'aurais pas besoin de m'inquiéter d'avoir le visa. Ça serait tellement plus simple et mieux si j'étais français. Ou ce serait mieux si j'étais pas français. Voilà, choisissez votre cas. Ou j'aimerais tellement que j'aurais tellement aimé avoir des parents, d'autres parents. J'aurais tellement trouvé ça génial d'être athlète, tu sais, d'être vraiment bon au sport. Et quelqu'un m'a donné souvent un très très bon avis. Un jour, si vous voulez être un athlète professionnel, la première chose que vous devez faire est de choisir les bons parents. Ok? Et donc, certains d'entre nous espéraient qu'on ait différents parents. Ou peut-être nos parents ne nous traitaient pas très bien et du coup, on aurait tellement aimé avoir d'autres parents à la place d'eux. Et ce qu'on se disait vraiment à travers ça, c'est Seigneur, tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu m'as donné ces parents. Tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu m'as laissé naître dans ce pays. Seigneur, tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu m'as donné cette tête, ce visage. Abraham Lincoln a une fois dit, les gens m'accusent d'avoir deux visages. Il dit, si j'avais deux visages, est-ce que vous pensez que je porterais celui-ci? Je regarde dans le miroir. Oui, je regarde et je dis, j'ai une tête faite pour la radio, pas pour la télé. J'aimerais tellement être différent. Et j'envie. Peut-être que je montre mon propre cœur ici. Vous savez, ces gens qui n'ont jamais pris une mauvaise photo de leur vie. Ils sont tellement photogéniques qu'ils peuvent juste sortir du lit et on prend une photo d'eux et ils avaient l'air bien. Pour moi, c'est un miracle, vous savez. Voilà, je suis reconnaissant pour l'appareil photo numérique parce que du coup, les gens peuvent prendre une centaine d'images et peut-être qu'il y en aura une qui sera bonne. Mais une partie de moi en vie, Seigneur, tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu m'as donné ce visage. Et ça, c'est le péché. C'est un péché. Pierre avait une rencontre intéressante, a eu une rencontre intéressante. Celui qui a écrit cette lettre est celui qui a quand même renié Jésus. Et il a renié 3 fois. Et après coup, regardons juste la fin de Jean. On a parlé dans notre live group il y a un petit moment. Donc tout à la fin du livre de Jean, Jésus le restaure. Et Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Oui, oui, je donne, nourris mes moutons. Et ils arrivent à cette conversation plusieurs fois, et vous êtes probablement familier avec ça. Et ensuite, dans le verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Voilà, on sait de l'histoire de l'Église que ce n'est pas clair en lisant ce texte. On sait qu'en fait, Pierre a été crucifié. Et quand ils l'ont crucifié, et quand il a été crucifié, il a demandé à être crucifié à l'envers parce qu'il ne voulait pas être crucifié de la même manière que Jésus. Donc Pierre avait cette vision que la vie ne va pas être bonne. Il a passé 3 ans avec Jésus. Et il était dans le cercle intime des disciples. Mais il y avait un disciple qui était souvent nommé celui que Jésus aime. Il s'agissait de Jean. Et donc Pierre disait, ok, moi je vais m'occuper de la, je vais avoir la crucifixion. Et il dit, verset 20, Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Et Pierre lui dit, « Moi, je vais récupérer je vais me faire crucifier. » Et qu'est-ce que donne Jean, hein, à la place? Et vous savez ce que Jésus a répondu? T'as rien à faire dans cette histoire, Peter. Ça te regarde pas. Quoi qu'il se passe avec Jean, ça devrait ne pas t'importer. C'est pas tes affaires. Suis-moi. C'est tout ce qui compte. Suis-moi. Suis-moi. Voilà, n'aie pas d'envie ou de jalousie pour quelqu'un d'autre. N'envie pas le don de quelqu'un d'autre. N'envie pas la tâche que j'ai donnée à quelqu'un d'autre. Toi, suis-moi. Tu sais pourquoi? Parce que je sais ce qui est le mieux. Et je t'ai conçu spécifiquement pour les tâches que je vais te donner. Suis-moi. Et n'envie pas, ne jalouse pas quelqu'un d'autre. Son appel, son don. Je t'aime et je t'ai fait juste la manière dont tu es. Sépare-toi de l'envie comme de vêtements sales. Et enlever toute médisance. Donc c'est la médisance, c'est faire du coup des mauvais témoignages devant les gens. Voilà. Donc notre président des États-Unis actuel est très connu pour justement faire des procès aux gens qui ont médit à propos de lui. Des journaux qui ont dit qu'il avait une fortune de 15 milliards de dollars alors qu'il n'en avait que 10. Voilà, donc c'est donner des faux témoignages en voulant porter dommage à quelqu'un ou à sa réputation. Ce qui est intéressant, c'est que le mot grec est un peu différent. Le mot anglais, grec, pour médisance, veut dire, ce sont des mots qui sont dits pour pouvoir blesser quelqu'un ou leur réputation. Elles peuvent être totalement vraies. Ce sont des mots qui peuvent être totalement vrais, mais les mots sont prononcés, sont faits pour blesser quelqu'un ou leur réputation. Ça se revient sur comme sont les relations entre nous, entre frères et sœurs. Est-ce qu'on parle de manière blessante et fausse, médisante les uns des autres? Peut-être qu'on dit est vrai, mais est-ce qu'on dit des choses négatives les uns des autres avec cette intention? Pierre a dit, j'ai passé 3 ans avec ce groupe de personnes et c'était tellement facile de monter et d'arriver avec des choses mauvaises, négatives à dire des gens. Mais Jésus nous a appris que quand je dis des choses négatives sur les gens, je n'agis pas avec amour. Je n'agis pas avec amour. Alors séparez-vous de tout ça. Laissez-le de côté. Éphésiens chapitre 4 nous apprend que les mots qui sortent de notre bouche ne doivent pas être inutiles et que les seuls mots qui doivent sortir, ce doivent être les mots pour faire grandir notre famille en Christ, pour les faire grandir et les aimer. Est-ce que du coup, on utilise nous tous des mots que pour édifier les autres, ou est-ce qu'on est constamment en train de critiquer? Ou est-ce qu'on est constamment en train de montrer les faiblesses des autres autour de nous? Débarrassez-vous de tout ça, dit Pierre. Débarrassez-vous de ça. C'est hideux. Ça va déchirer le corps en deux. On est appelé à s'aimer les uns les autres et s'aimer les uns les autres profondément. La réalité est que cet amour qui nous appelle ici à Trinity, vous êtes dans une classe où vous allez avoir du coup un enseignement et vous allez avoir du coup un certificat à la fin. Parce que finalement, on a tous des langues différentes, des cultures différentes, et donc la probabilité qu'on puisse s'entrechoquer, avoir des tensions entre nous est énorme. N'est-ce pas génial? Parce que certains disent Alléluia. On est dans une école pour apprendre, pour avoir un bac. On a une opportunité d'apprendre sur l'amour d'une manière que beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité, parce qu'on peut justement s'entrechoquer les uns les autres avec nos différentes cultures, nos différentes langues, nos différentes façons de faire. Alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on a ces tensions? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces choses ne se développent pas dans nos cœurs, cette méchanceté, la ruse, etc. Pierre nous dirait de se rappeler de ce qu'a dit Jésus. Pierre dirait de se rappeler de ce que Jésus a dit, puisque Jésus avait dit « Va. Va. » Je veux que vous vous souveniez de ça. Jésus a dit « Va. » Voilà, j'aimerais bien que vous alliez avec moi dans le livre de Matthieu.
Turn with me to the book of Matthew. Jesus' first sermon, Matthew chapter 5.
Donc Matthieu chapitre 5.
Verset 23.
Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire qu'on doit avoir notre radar intérieur en marche, toujours en train de fonctionner, et reconnaître, identifier, il y a eu un changement dans cette relation. Cette personne retire des choses de moi, ou que quelqu'un m'évite ou dit des choses, et vous savez quoi ? Je pense que j'ai moi aussi fait des choses qui les ont offensés. Surtout dans un endroit multiculturel comme ici, ça peut être juste quelque chose de culturel, une incompréhension. Et il y a eu du coup une tension. Et je peux dire à propos de la manière dont l'autre personne agit que je l'ai offensé. Qu'est-ce que Jésus dit de faire ? Il dit d'y aller et de régler ça. Vous sauriez peut-être instantanément ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit. Parce que certains d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, je m'inclus vraiment dans cette position, disent des choses et le moment où on les dit, on aurait espéré qu'on aurait pu les tirer et les faire rentrer de nouveau dans notre bouche. Mais non, ils sortent et bam, ils touchent quelqu'un. Ils arrivent en pleine tête de quelqu'un. Et la relation change, se transforme. Et Dieu nous dit, allez-y, va, soyez réconciliés. Peut-être vous savez exactement ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Alors vous allez à la personne et vous lui dites, je suis désolé, je m'excuse. J'ai fait ça. J'ai dit ça. C'était faux. Je n'aurais pas dû le faire. Pardonne-moi. Vous savez quoi ? 9 fois sur 10, peut-être 95 fois sur 100, l'autre personne va dire : oui, je te pardonne. Je te pardonne. Et la relation va commencer à être restaurée, guérie. Dans un contexte multiculturel comme ceci, vous découvrirez qu'il y avait une incompréhension. Voilà, je l'ai vu apparaître tellement de fois quand le langage et la langue n'étaient pas traduites correctement et quelqu'un, du coup, a mésinterprété ce que j'ai dit. J'aurais parlé et on a pu régler ce problème. Le résultat était qu'il y avait un temps, il y a eu un temps pour la malice, la médisance, parce que voilà, Jésus a dit y aller. Donc je n'ai pas laissé cette malice prendre mon cœur et grandir. Des fois, par contre, quand même, et si on est honnête, c'est ce qu'on se rend compte. On ne se rend pas forcément compte quand on a une tension avec quelqu'un, mais par contre, on se rend compte quand quelqu'un nous fait du tort. Quand quelqu'un... Voilà, on s'en rend tout de suite compte quand quelqu'un nous fait une queue de poisson sur la route. Mais par contre, on ne s'excuse pas quand nous, on fait la même chose aux autres personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous fonce dedans? Voilà, ils font quelque chose. Voilà, ça vous a offensé, ça vous a blessé. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Voilà, vous priez juste de ça, c'est tout ce que vous faites. Vous priez juste. Non. Enfin oui, il faut prier, bien sûr. C'est une bonne chose de prier pour ça. La première chose que vous devriez faire, c'est de prendre du recul, voir ça de loin. Parce qu'il y a plein de toutes petites choses que dans l'amour, vous passez par-dessus. On va avoir un potluck. On va avoir tout un tas de bons plats. Et je ne sais pas si Paul a amené son dessert si connu. Oui, oui, il l'a amené. Voilà, il y a une raison pour laquelle je vais à la table de dessert en premier. Mais vous savez quoi? Paul va être devant moi et il va prendre la dernière part. Ah! Ah! Ça m'embête! Voilà, j'étais dans la ligne et puis Paul me coupe la route et bam, prend la dernière part. Qu'est-ce que fait l'amour dans ces cas-là? La première chose que l'amour fait, voilà, c'est qu'elle passe par-dessus cette offense, parce qu'il y a plein de petites choses que vous laissez de côté. Vous lâchez prise. Je suis sûr qu'ils devaient laisser un certain nombre de choses pendant qu'ils y allaient avec Jésus. Mais des fois, vous laissez quelques heures, un jour ou deux, et cette chose vous blesse toujours intérieurement. Vous avez toujours cette blessure, ça ne part pas. Je suis toujours en colère contre Paul, voilà, pour être inconsidéré par rapport à moi. Et pour moi, il était juste impoli. Il n'agissait pas avec amour. Mais qu'est-ce que je suis censé faire à ce moment-là? On a déjà mis de côté une certaine chose. Parce qu'on a dit, qu'on allait foncer dans ces relations avec amour. Donc je ne peux pas juste m'enfuir du problème. Je dois m'en occuper. Comment? Comment je m'en occupe? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Matthieu 18,
go and show him, tell him his fault.
Voilà, si ton frère t'a causé du tort, alors va lui dire qu'il soit au courant. Comme ça, vous serez tous les deux au courant. Donc Jésus a dit, vas-y. Montre-lui, dis-lui la faute qu'il a commise envers toi. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. On va en prière en disant, « Oh Seigneur, oh Seigneur, je prie que tu travaillerais dans la vie de Paul. » Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, dans la culture américaine, comme ça mon ami, c'est tout à fait normal de justement le titiller sur ça. Voilà, Paul serait le dernier, ou l'avant-dernier en tout cas, de prendre la dernière part du gâteau. C'est pas du tout Paul. Mais bon, on va en prière et on dit, « Oh Seigneur, Seigneur, voilà, punis Paul et utilise sa vie, il est tellement égoïste, voilà, il a marché devant moi dans la queue. Alors occupe-toi de Paul, s'il te plaît, Dieu. » Et Jésus dit, écoute et dit, ok, va. Va. Non, Seigneur, je ne veux pas y aller. Occupe-toi de ça tout seul, moi je veux éviter Paul. Je vais juste travailler à être plus loin dans la file pour être bien devant Paul la prochaine fois au prochain potluck. Non, je veux que tu y ailles. Jésus a dit, vas-y. Et Jésus dit, je suis très bon à ces relations, ces choses sur les relations. si tu fais ce que je te dis de faire. Alors vas-y. Oh Seigneur, il faut que je parle au moins à 15 personnes de ce que Paul m'a fait pour avoir le courage d'aller lui parler. Et Jésus dit non, c'est entre toi et Paul. N'implique pas d'autres personnes, c'est juste entre toi et lui. Alors vous y allez. Dans un esprit d'humilité, dans un esprit de gentillesse. Et vous dites, Paul, je ne sais pas si tu le sais, mais tu m'as causé du tort, tu m'as fait du mal la semaine dernière au potluck parce que tu t'es mis devant moi dans la queue alors que j'attendais depuis longtemps. Et de ce que je peux voir, c'était vraiment impoli et égoïste. Maintenant, si on va faire ça dans le corps du Christ, dans notre corps, les uns avec les autres, on doit être ouvert. Et on doit être à l'écoute de ce que les autres gens peuvent nous dire. Parce qu'après, la relation de Paul va être probablement défensive. Et on doit dire non. La Bible nous dit d'écouter. La Bible nous dit d'écouter. Et d'être humbles les uns avec les autres. Alors je dis ça, et Paul dit, je suis désolé, je n'avais aucune idée, je ne faisais pas attention, je suis désolé. Et alors, je lui pardonne, et on rigole de ça. Et la prochaine fois au potluck, on va être sûr que du coup, la personne reçoit la part de dessert. Et notre relation est guéri et restauré. Parce qu'on a fait ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez-y, allez-y. Voilà, plonge dans la relation. Ne t'enfuis pas de cette relation, mais plonge au contraire dans la relation. Et si vous le faites, Jésus dit, on est deux ou trois regroupés en mon nom, je suis là, je suis avec vous. Au milieu de cette conversation, je suis avec vous et je ferai mon travail. Je ferai mon travail dans cette conversation. Ça prendra probablement et peut-être du temps, mais je ferai mon travail. Et pendant que vous plongez dans cette relation, justement, pendant que vous gérez les problèmes et les difficultés et les chocs. Voilà, pendant que vous arrêtez du coup de parler avec des mauvais mots, de la méchanceté, de la ruse, de la médisance les uns pour les autres, je vais construire cette chose tellement glorieuse. Voilà, cette maison spirituelle. Vous serez comme un grand prêtre. Vous pourrez déclarer les gloires de Dieu. Et le monde entier l'entendra. Et le monde entier regardera. Et ils sauront que vous êtes mes disciples. Parce que vous vous aimez les uns les autres. Parce que vous vous aimez les uns les autres. On va prendre quelques minutes pour prier. Je vais demander à Rebecca de venir. Donc elle va jouer doucement.